Installez-vous confortablement, c'est l'heure de C'est moi qui lis. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez C'est moi qui lis, la chronique qui vous fait découvrir ou redécouvrir un livre unique et magnifique. Chaque lundi, mercredi et vendredi soir, je vous partagerai un livre qui m'a touchée, surprise, choquée. Je vous en dirai bien sûr un peu plus sur l'auteur ou l'autrice, sur le processus d'écriture du livre, et je vous en lirai un passage. Ce soir, on part en terre du milieu avec le seul, l'unique John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien pour les intimes. Né en 1892, il se définissait lui-même comme un hobbit. Il fumait la pipe, aimait les jardins et les gilets brodés. Bon, l'histoire ne nous dit pas s'il avait les pieds poilus, mais on sait qu'il détestait la cuisine française. Hérésie me diront certains, on peut tout lui pardonner me diront d'autres. Bon, si vous me demandez mon avis, je dirais qu'en ayant passé 12 ans à travailler sur Le Seigneur des Anneaux et presque toute sa vie sur le Silmarillion, il avait manifestement d'autres priorités que de goûter notre bœuf bourguignon. L'histoire de la Terre du Milieu a débuté aux environs de 1910 et il n'a eu de cesse d'enrichir ce monde. Nouveau calendrier, arbre généalogique, alphabet. Il a d'ailleurs donné des infos sur plus d'une dizaine de nouvelles langues. Pas très étonnant quand on sait qu'il parlait, entre autres, le français, le danois, l'anglais, le russe, l'espagnol, le grec, le latin, l'italien ou même le serbe, un véritable Google Trad vivant.
Ai lauri elantar lassi surine, ignar un ottinar verramar alloron, ignar velinti julmar vanier mior mar delissimiru voriva, andunne pella vardo telmar nulluini jassem tintelar jelini, o mario aeritare lirine. Si mani yuldan innen quantula, an si den talle varra oio lossi ove fagna maria delentari ortene, arigli tia rundullave lumbole a sindano riello caita morni e falma linna rimbe mettar hissie, un tuppa calachiglio miri oiele. Si vannuna, romello vannu a valimar. Na marie, na hiru valie valimar, na elie hiruva.
Bon, si vous avez compris, félicitations, vous êtes bilingue français-elfique. Pour Tolkien, la cohérence est le maître mot et il n'hésitait pas à écrire sur plusieurs pages tout le déroulé des coutumes complexes lors des anniversaires des Hobbits à un lecteur qui pensait avoir trouvé une contradiction. Le monde merveilleux de Tolkien a d'ailleurs donné lieu à de nombreux dictionnaires et manuels pour essayer de démêler le schmilblick. Vous vous souvenez du sentiment qu'on a quand on commence la course d'orientation pour la première fois? Eh bien le monde de Tolkien, c'est un peu ça. On peut avoir l'impression de nager dans des sables mouvants, mais une fois une carte cohérente en main, le voyage à travers la Terre du Milieu est encore plus passionnant qu'une mise à jour de la map de Fortnite. Si, si, c'est possible, je vous assure. Et dans ce monde merveilleux, gravit d'autres mondes indépendants qui, le temps d'une histoire, nous ouvrent leurs portes. Et c'est le cas du livre Reverendum, et on reste dans l'esprit de Tolkien avec la chanson Misty Mountains de Peter Hollins.
Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day. Find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height. The winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread. The trees like torches blazed with light. The wind was forest, stand or ease. dark things silent crept beneath.
Écoutez toujours C'est moi qui lis sur le 101.fm. C'était le titre Misty Mountains de Peter Hollins, chanson que vous pouvez lire dans le livre Bilbo le Hobbit ou que vous pouvez entendre dans son adaptation cinématographique Le Hobbit. Je vous ai laissé avec le nom Rover Random un peu en suspens. Aujourd'hui, on est hashtag Team Chien avec Rover, un chiot qui, après avoir mordu le sorcier Arctaxerès, se retrouve transformé en jouet et vendu à un petit garçon. Quand la nuit tombe, il reprend vie et réussit, grâce au magicien Psamathos, à s'échapper de la poche du petit garçon lors d'une sortie à la plage pour finalement vivre bon nombre d'aventures, notamment sur la lune. Rover Random, chapitre 2, page 49. Quand Rover s'éveille, le soleil est très bas. L'ombre des falaises traverse tout droit le sable. Et Psamathos n'est visible nulle part. Un goéland de grande taille posé près de Rover l'observe, et le chien connaît un moment d'angoisse. Ne se prépare-t-il pas à l'avaler ? Mais l'oiseau lui dit « Bonsoir, voilà un moment que j'attends ton réveil. » Psamathos m'avait dit « Ce sera vers l'heure du thé, mais elle est passée depuis belle lurette. » Très poliment, Rover réplique « S'il te plaît, pourquoi donc m'as-tu attendu ?»« Je m'appelle Cendrée, » dit le goéland, « et je t'attends pour te mener sur le sentier de la lune aussitôt qu'elle se lèvera. Avant cela, nous avons une ou deux choses à faire. Saute sur mon dos, on va voir si tu apprécies de voler. » Cette idée commence par ne pas plaire du tout à Rover. Tant que Cendrée demeure au ras du sol, tout va bien. Il glisse doucement, aile déployée, tendue, en silence. Mais quand il s'élance en l'air ou prend un virage aigu, changeant de route à tout instant, ou encore quand il vire sur l'aile en piqué sans prévenir, comme pour plonger dans les flots, le petit chien qui sent le vent siffler dans ses oreilles n'éprouve qu'un désir, se retrouver en sûreté sur le plancher des vaches. Seulement, chaque fois qu'il le dit, Cendrée se borne à répondre. « Accroche-toi ! Autant dire qu'on n'a pas commencé !» Ils volent ainsi un petit moment, et Rover commence tout juste à s'habituer, sans y trouver un réel intérêt, quand subitement Cendrée annonce « Décollage !» Et Rover se trouve presque culbuté, car le goéland file à la verticale comme une fusée, puis se pose à vive allure dans le courant du vent. Il se trouve bientôt à une telle altitude que Rover peut voir, bien loin à travers la région, le soleil descendant au-delà des sombres collines. Il se dirige maintenant vers de très hautes falaises noires, aux rochers à pics si escarpés que personne ne pourrait les gravir. Tout en bas, la mer clapote au pied des falaises, comme si elle suçait leur base. Sur ce sol, rien ne pousse. Tout ce qu'on aperçoit, ce sont des choses blanches, pâles dans l'obscurité. Des centaines d'oiseaux de mer sont assis là, sur des corniches, se parlant parfois d'un ton lugubre, puis se taisant, ou encore plongeant de leur perchoir dans le vide, d'un coup, en piqué, avant de décrire des courbes, puis de plonger une nouvelle fois, vers la mer tout là-bas, si bas que les vagues ne sont plus que de petites rides. C'est là que Sandré vit habituellement, et il doit rencontrer plusieurs congénères, notamment le plus ancien et le plus notable des goélands, Croupion Noir. Il lui faut aussi, avant de repartir, faire la collecte du courrier. Il dépose donc Rover sur l'une de ses étroites corniches, bien plus étroite qu'une marche, en lui disant de l'attendre et de prendre bien garde à ne pas tomber. On peut être tranquille, Rover prend bien soin de ne pas tomber. Sur son escarpement, avec le vent qui souffle, il se sent vraiment mal à l'aise. Il se blottit au bord de la falaise, au ras du sol autant qu'il peut, et il pleurniche. C'est vraiment l'endroit le plus désagréable où on puisse déposer un petit chien ensorcelé, tout bourré d'angoisse. Le soleil finit par disparaître entièrement de la surface du ciel. Une brume s'étend sur les flots. Les premières étoiles s'allument, dans l'obscurité qui s'épaissit. Alors, au-dessus de la brume, emplissant jusqu'à l'horizon, dominant la mer, la lune se lève ronde, jaune, et dépose progressivement sur les flots son sentier tout brillant. Peu après, Sandré revient rechercher Rover, qui s'est mise à frissonner et se sent bien misérable. Comme les plumes de l'oiseau lui semblent chaudes et confortables après cette froide corniche de la falaise. Il s'y enfouit autant qu'il peut. Sandré prend alors son essor, survolant la mer à très haute altitude. Et tous les autres goélands quittent leur corniche et les saluent de leur cri d'adieu lorsqu'ils s'engagent sur le chemin lunaire qui, maintenant, s'étend tout droit du rivage jusqu'à la ténébreuse frontière de nulle part. Rover ignore totalement où ce chemin peut bien conduire, mais en cet instant, il est bien trop effrayé et excité pour poser la question. Et de toute façon, il commence à s'habituer à ce que des choses extraordinaires lui arrivent. Ils poursuivent leur vol au-dessus du chantier argenté posé sur la mer. La lune s'élève, toujours plus haut, toujours plus blanche, toujours plus brillante. Les étoiles n'osent plus l'approcher, elles resplendissent seules à l'orient. Sandré se guide, ce n'est pas douteux, suivant les ordres de Psamathos, afin d'arriver où Psamathos a décidé. Il n'est pas douteux non plus que Psamathos lui apporte une aide magique, car il vole plus vite que les grands goélands ne font d'ordinaire. Il fend l'air d'une manière plus tranchante, même contre le vent quand il se dépêche. Un temps fou s'écoule avant que Rover aperçoive autre chose que le clair de lune et, au-dessous, la mer. L'astre ne cesse de grandir, l'air ne cesse de se refroidir. Et voilà que soudain, à la surface des eaux, il distingue quelque chose de noir. À mesure qu'il se rapproche, la chose prend de l'ampleur, et Rover se rend compte que c'est une île. De la mer jusqu'à eux, monte une immense rumeur faite d'aboiements, un bruit composé de toutes les variétés et de toutes les ampleurs. Jappements, glapissements, braillements, hurlements, ronchonnements et grognonnements, gémissements et geignements, grondements et grognements, larmoiements et soufflements. Autour du cou de Rover, chaque poil devient soudainement très réel et se dresse raide comme une brosse. Le chiot se dit qu'il aimerait descendre, sur le champ, pour se mêler à cette immense dispute de chiens. Mais il se rappelle alors à quel point il est petit. « L'île des chiens », énonce Sandré, ou plus exactement l'île des chiens perdus, peuplée de tous ces chiens perdus qui sont méritants ou heureux. Je me suis laissé dire que pour eux, ce n'est pas un séjour désagréable. Ils peuvent y faire autant de bruit qu'ils veulent sans que quiconque vienne leur dire de se taire ou leur jeter n'importe quoi. Chaque fois que brille la lune, ils exécutent un joli concert en mêlant leurs aboiements favoris. On m'a dit qu'il existait aussi sur cette île des arbres à eau dont le fruit, semblable à de bons os de viande bien juteux, tombe d'eux-mêmes lorsqu'ils sont mûrs. Non, non, ce n'est pas là que nous allons maintenant. Vois-tu, on ne peut pas dire que tu sois vraiment un chien, bien que tu aies cessé d'être un pur jouet. En fait, je crois bien que Psamathos ne savait pas trop quoi faire de toi quand tu lui as dit que tu ne désirais pas retourner chez toi. Alors, où allons-nous ? Questionne Rover, déçu de ne pas voir de plus près l'île aux chiens, alors qu'il vient d'entendre parler des arbres à eau. On remonte le chemin lunaire jusqu'à la frontière du monde que nous allons passer. Ensuite, direction la lune. Voilà ce qu'a dit le vieux Psamathos. Rover n'aime pas du tout la perspective de passer par-dessus le rebord du monde, et la lune lui apparaît comme un lieu de séjour plutôt froid. Pourquoi la lune ? Il y a dans le monde des tas d'endroits où je ne suis jamais allée. Jamais je n'ai entendu dire que sur la lune il y avait des eaux ou même des chiens. Des chiens ? Il y en a au moins un, celui du Lunhomme. Étant donné que c'est un très bon garçon, en même temps que le plus grand de tous les magiciens, il y a sûrement des eaux pour le chien et probablement aussi pour les visiteurs. Quant au motif de ton voyage là-bas, j'ose dire que tu les connaîtras en temps utile si tu gardes la tête froide au lieu de bougonner pour rien. À mon avis, Psamathos est vraiment gentil de se faire du souci à propos de toi. Et pour tout dire, je ne comprends même pas pourquoi il se tracasse. Cela ne lui ressemble pas de faire des choses sans une grosse bonne raison. Et tu n'es ni gros ni bon, semble-t-il. Je te remercie. Rover se sent humilié. Tous ces magiciens sont bien bons de se tracasser pour moi, ça c'est sûr. Et c'est même plutôt angoissant. Une fois qu'on est mêlé à ces gens-là et à leurs amis, on ne sait plus ce qui va se produire. De toute façon, c'est un sort bien meilleur que ne mérite un chiot jappeur, conclut le goéland. Après quoi, pendant un bon moment, il ne s'adresse plus la parole. En 1925, Gérard Tolkien est parti en vacances avec sa femme Edith et leurs trois enfants. Michael Tolkien, qui avait à peine 5 ans, avait pour jouet favori un chien miniature en plomb. Et lors d'une promenade à la plage, il l'a déposé sur les galets, sauf qu'il ne l'a jamais retrouvé. Donc on imagine facilement que c'est cet épisode qui a inspiré Rover and Dom, tel que nous, on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, le livre lui est dédié à sa mémoire. Et c'est lors d'une tempête que, pour calmer ses fils, Gérard Tolkien raconta pour la première fois l'histoire de Rover, chiot victime d'une malédiction. Ne vous avisez surtout pas de croire que c'est simplement un conte pour enfants. Tolkien nous prouve ici son talent pour mixer mythologie, travail sur la langue, aspect biographique et fantastique en un conte magique d'une centaine de pages à peine. Je le conseille à tous ceux et celles qui adoreraient commencer à lire du Tolkien, mais qui se sentent un petit peu effrayés par les trois tomes du Seigneur des Anneaux, ou qui ont la flemme de les lire d'ailleurs. Mais je le conseille aussi à ceux et celles qui connaissent et dévorent avidement les livres de Tolkien, et qui pourraient avoir, à tort, mis ce conte de côté. Rover and Dom nous offre la possibilité de rentrer dans l'univers de Tolkien, dans un langage plus compréhensible que l'elfique. Plutôt pratique, non ? D'ailleurs, en parlant de langue, est-ce que vous saviez que les nombreuses langues inventées par Tolkien ont inspiré David J. Peterson pour l'invention du Dothraki dans Game of Thrones ? Donc, si vous êtes en plein doute sur votre avenir ou que vous êtes en pleine reconversion professionnelle, pensez à devenir créateur ou créatrice de langues artificielles. De 1, c'est hyper classe, et de 2, vous pourrez faire toutes les fautes d'orthographe que vous voulez. Bien sûr, résumer l'œuvre et la vie de Tolkien en quelques mots, c'est extrêmement compliqué et pas forcément faisable. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur cet auteur, parce que même s'il est extrêmement connu de par les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, ses livres sont parfois mis un petit peu de côté. Donc vraiment, n'hésitez pas, plongez-vous dans l'univers de Tolkien, je vous assure, vous ne le regretterez pas. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était Marion avec la chronique C'est moi qui lis. On se retrouve mercredi pour un épisode sur Amélie Nothomb, toujours sur le 101.1 FM. Et en attendant, amusez-vous bien.